Salut tout le monde, c'est Enzo et c'est surtout l'heure de Pleine Balle, votre rendez-vous tennis et padel sur Radio Phoenix. J'espère que vous aimez les Masters 1000 parce qu'une double ration est au menu du soir. WTA et ATP se sont attablés à Indian Wells dans le désert californien pour la première partie de ce mois printanier. Le tournoi approche de son terme et on va revenir sur les performances intéressantes de l'anglais Jack Draper mais aussi d'Arthur Fils. La jeune Mira Andreeva sera elle aussi au cœur de nos discussions après un début d'année plus compliqué, notamment dans la tête. Et le mental, il va en être question parce qu'on va vous donner les conseils pour ne plus faire de double faute sur balle de break. Bref, pour un mental en acier trempé. Sans oublier les bons classiques, de la médisance sur Tsitsipas, des pronos pourris et un quiz de clôture. Et même une nouvelle rubrique que vous découvrirez au cours de cette émission. Un programme copieux, vous l'avez compris. Pleine balle, 46e du nom. C'est parti.
Silence, silver play.
On a une période où on joue moins bien parce qu'on réalise.
Et là, j'étais vraiment sur un nuage pendant trois jours.
That's good stuff. All out of tech from Federer. Et autour de la table, en ce vendredi 13, un casting éclectique, pas du tout superstitieux, mais ô combien complémentaire. Tout d'abord, la dernière venue de l'équipe, une recrue du mercato d'hiver. Les scouts de l'équipe Pleine Balle ont jeté leur dévolu sur cette joueuse au tennis rythmée, cadencée, comme son idole, Giovanni Mpetsi-Péricard. C'est Marine. Comment ça va?
Ça va très bien, un peu moins maintenant, vu que t'as dit qu'on idole, c'est Giovanni.
C'est peut-être une erreur, moi j'avais ça comme info, mais
j'ai... T'as vu ça sur Wikipédia?
C'est vrai, sur Wikipédia, ouais. Ouais, c'est vrai, ma nouvelle page, elle a été actualisée d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps.
Du coup, elle est mal actualisée, faudra faire
ou
un
bien,
petit...
mais c'était un secret trop bien gardé.
Ah, peut-être.
Malheureusement.
Peut-être qu'on te veut du mal et qu'on
on m'a
diffuse des fausses.
Ah, c'est possible.
Va falloir faire du clair là-dessus. À ma gauche, le Lucky Luke des jeux de mots, il dégaine plus vite que personne. Et sur n'importe quel sujet, tout est prétexte à une bonne vanne avec lui. D'ailleurs, je vous rappelle, si vous ne saviez pas pourquoi, c'est un nom de bagnole à Stuttgart.
Tu te gardes pas là, garde-toi ailleurs.
Ouais, quand même, fallait le rappeler. fallait le rappeler quand même. Comment ça va, Richard?
Ben, ça va très bien, merci beaucoup. Ouais, non, mais Lucky Luke, ça va bien. Je préfère Lucky Luke que Rantanplan ou Joe ou Avril Dalton.
Joey Jumper, le cheval.
Ouais.
C'est Lucky Luke.
Lucky Luke, allez, Luke. On reste là-dessus. Ça va très bien.
Ça te va très bien.
Tu es
notre Lucky Luke. Favori, préféré.
Un petit cure-dent à mettre dans ma bouche là.
Ah oui, un petit brin d'herbe là, à mâchouiller là. Pas mal.
Il manque que ça.
Et enfin, je salue le plus éminent membre des Sartilly Globetrotters, tantôt parti surfer sur la côte atlantique. Depuis la dernière émission, il est allé profiter de la poudreuse alpine. Mais en fidèle apôtre du tennis, il est bien en studio avec nous ce soir. C'est Simon. Comment ça va?
Ça va très bien. Ressourcé grâce à la poudreuse.
Il a l'air heureux.
Il a l'air très très heureux.
Ça va super bien.
J'adore, merci. Merci.
J'ai pris froid en haut.
Oh, t'as pris froid, Michon?
Bah ouais, écoute, qu'est-ce que je te dise?
Bah il fallait se couvrir. C'est vrai que t'as vraiment pas l'air en forme, je sais pas ce qui t'arrive tout d'un coup.
J'ai pensé à toi, j'ai vu une vidéo là sur les réseaux, quelqu'un sur un télésiège là qui est resté accroché à bout de bras sur le télésiège pendant 5 minutes là, je me suis dit merde, à tous les coups c'est Simon. Non, c'était pas toi.
Non, mais j'étais dans le télésiège derrière.
Il est toi qui filmais.
Ah, moi je filmais. J'étais là, laisse-la tomber, on fera le buzz. Elle a pas voulu. Oh, comme quoi, il y a encore une âme humaine quelque part sur les pistes de ski.
Mais toi, t'étais là pour le buzz, donc évidemment, on comprend. Et évidemment, je le précise quand même, mais on finit les présentations en saluant Émile, quand même. Le génie de la technique.
Fidèle au poste.
Il pourra pas nous répondre, mais je lui demande comment ça va et je sais qu'il va bien, donc on fait les questions et les réponses. Voilà, salut Émile en tout cas.
On fait des dos d'honneur.
Oui, bah,
des
ça
pouces,
c'est.
Des pouces d'honneur.
Des pouces d'honneur. Ouais. Allez, débutons cette émission avec le gros de l'actualité tennistique de ce mois de mars. C'est le fameux Sunshine Double, le doublé ensoleillé pour ceux qui n'auraient pas l'anglais facile. Deux Masters 1000 aux États-Unis avant la tournée européenne sur terre battue. Et direction tout d'abord la West Coast en Californie avec le BNP Paribas Open. Indian Wells pour les intimes, un tournoi sur 12 jours, ce format chéri par absolument personne. Bref, sur les cours, que s'est-il passé? On y reviendra plus en détail encore dans notre partie prono tout à l'heure, mais là on est au stade des demi-finales qui se joueront demain pour nous à 19h heure française. Un dernier carré où ne figure pas le tenant du titre, Jack Draper, l'anglais défendait de gros points, à qui l'an passé, qui l'avait amené jusqu'au 7e rang mondial. Depuis, et vous le savez encore plus depuis la chronique de Marine, hein, puisque vous l'avez écouté religieusement, les blessures se sont enchaînées. Le doute était permis hein, quant à ses performances futures. Alors certes, il n'est pas en demi-finale de ce tournoi, mais il s'arrêtait à l'échelon juste avant, en quart de finale, après un très joli parcours, en battant, oui, Roberto Bautista Agut au premier tour.
Bah, faut le faire. Excusez-moi, mais bon.
Faut le faire.
C'est
voilà.
Dur, toujours c'est un gros dur. Poisson.
Et évidemment, le Roberto, il est un gros poisson.
Tu le prends comme tu veux, Roberto.
Oui, Roberto.
Je suis sûr qu'il kiffe être comparé à un poisson.
Ouais, non, sûr,
il est une âme de poisson.
Mais il y a des très beaux poissons, je suis désolé.
Mais bien sûr. Voilà, bien sûr,
surtout il y a des gros, il y a des gros requins, il y a des cachalots.
Mais venez, on en parle.
Oui,
j'avoue. Ouais, franchement, parlons de poissons, c'est quand même plus intéressant. Non, mais surtout, il a quand même battu Novak Djokovic en huitième de finale au terme d'un gros duel, un homérique à souhait. Un tournoi quand même plutôt prometteur pour notre cher ami Jack Draper. Hein. Marine, je me tourne vers toi en premier.
Bah que, oui, c'est quand même c'est son quand mannequin, même... son joueur voilà. Préféré. Donc,
la représentante officielle du FC Draper.
Ouais, non, convaincant. C'était, je pense, le plus gros challenge depuis le retour de sa blessure. Et bon, malgré qu'il a, il a pas défendu tous ses points, je pense que c'est plutôt pas mal. Ça promet pour la suite. Donc, t'ai-je quand même un Djoko qui était pas mal. Enfin, c'est un Djoko, quoi. Hein. Papy est toujours là. Il fait de la résistance, comme on dit. C'est plutôt cool. Après, bon, voilà, Medvedev. Voilà, je l'aime pas, on est bien d'accord, mais là, il faut dire que son tournoi est quand même bah, relativement parfait, en fait. Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire, donc...
Effectivement, on va y...
Défaite un peu logique, on va dire.
On va reparler juste après de Medvedev, mais c'est vrai que ouais, pour Jack Draper, je vais y arriver, plutôt, franchement, un bon tournoi, et quand même, voilà, ce point d'exclamation incroyable avec cette grosse victoire contre Djoko.
Oui, c'était un petit peu, on va dire, son. C'était un peu son gros tournoi de reprise.
Oui.
Il était attendu un peu au tournant. Et puis voilà, il était effectivement en forme, au niveau. On a parlé de ce match impeccable contre Djokovic. Il y a eu du spectacle, il y a eu du suspense, il y a eu tout ce qu'on voulait. Et voilà, c'est un joueur qui est toujours aussi impressionnant parce que son tennis, il ne l'a pas perdu du tout. Après, c'est plus le physique. Voilà, faut qu'il se remette dans le bain. Et puis après, c'est mentalement un peu voir aussi comment il se remet sur le circuit. Mais on sent que mentalement, c'est un monstre, quoi. Hein. Il est costaud, il est là... Il n'est pas là pour plaisanter.
Non,
il fait peur.
Voilà, et voilà, je pense que c'est très bon signe pour lui, à commencer peut-être dès la semaine prochaine à Miami. Pourquoi pas.
Ouais, tout à fait. Ouais. Simon.
Ouais, en plus, je pense que quand les matchs vont vraiment s'enchaîner pour lui, ça va être peut-être mieux parce que là, il a fait des petites erreurs. On sent qu'il a, bah, il manque d'enchaînement de matchs. Donc là, par exemple, contre c'est Djokovic, je crois. Oui, il doit servir pour le match. En fait, il sert pas pour le match. Enfin, il se fait briquer un peu bêtement et du coup, il va jusqu'au tie-break. Parce que Djokovic a quand même failli passer. Hein. Il y avait deux points d'écart.
Oui, après, c'est tie-break,
je pense qu'après c'est le pire hein, de servir pour le match contre Djokovic.
Contre Djoko, ouais.
Là, à mon avis, faut serrer les boulons, ouais. Quoi.
T'as raison, mentalement, si à force de jouer, il va sûrement revenir dans le top 10. Peut-être dans le top 5. Là, il était quatrième avant. Donc, moi, j'y crois carrément. Mmh. Mais contre Medvedev, on a quand même vu que mentalement, il était un peu friable. Il a pété un câble. on va en parler.
On va en parler justement. Mais je pense qu'il était peut-être un petit peu aussi émoussé.
Exact. Émoussé.
Par son duel contre Djoko, hein, qui a quand même duré un certain temps. Et encore une fois, il est en reprise. Donc, même s'il joue que tous les deux jours, il faut qu'il se remette dans le rythme.
Oui, puis on rigole, Jackie. Mais Roberto Bautista Agut, il est passé en 3-7 hein, aussi.
Ah oui,
c'est
facile.
Il s'est fait essorer par la lunette espagnole. Ouais, pas facile.
Ouais, non, c'est clair. Et du coup, tu l'abordais, Simon, c'est l'occasion d'en parler. Il est tombé donc hier soir en quart de finale contre Daniil Medvedev.
Avec les honneurs.
Avec les honneurs, 6-1-7-5. un premier set quand même assez voilà... Dans le sens de Medvedev, quand même, on va pas se mentir. Par contre, le deuxième set était beaucoup plus accroché et il y a eu évidemment cette petite polémique.
Cette polémicasse.
Tout à fait, évidemment.
El polémico.
On va faire toutes les déclinaisons. Vas-y, Marine, introductive.
Ah, j'ai pas d'idée. Je suis pas assez rapide pour ça.
Drapeau blanc direct.
Non, mais c'est vrai que voilà, dans le deuxième set, il y a eu une petite friction entre les deux joueurs.
Un fait de jeu.
Une bisbille.
Allons-y.
Allons-y gaiement. À 5 partout dans le deuxième. Sur une histoire un peu de gêne potentielle, je crois.
Ouais,
c'était ça.
Il a agité son bras, il pensait que la balle était faute. Non, c'est quoi ? Non, il pensait que la balle était faute.
Ouais, c'est ça. Bon,
je sais pas, je pense qu'il pensait que la balle allait pas passer. Ou peut-être qu'elle était faute, je sais pas.
Elle est en fond de cours.
Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il s'est passé ?
Oui, si, on a vu le point, mais on sait pas trop ce qu'il dit.
La balle était longue et il pensait qu'elle allait être faute et il s'indignait du fait que ça avait pas été annoncé faute. C'était un truc comme ça. Donc il a levé le bras en mode oh, elle est pas faute.
Et ça fait hindrance.
Bah, du coup, à la fin du point. Alors,
Medvedev.
Il y a quand même...
Non, Medvedev.
Oui, Medvedev. Medvedev. Pardon. Oui, Medvedev, à la fin du point, qui a quand même duré 3-4 échanges après, est venu au filet dire il a fait un signe de bras, ça m'a gêné. Bon.
Il y a eu review, etc.
Sacré Dani, là.
Et l'arbitre a dit effectivement, ça vous a gêné. 30-0, du coup, pour Medvedev. 0-30. Bam.
Et donc, ouais. Il a donné le point à Medvedev, effectivement. Mais c'est vrai que, bon, hors ce fait de jeu, comme tu disais, Richard, le tournoi de Medvedev, extrêmement solide. Franchement, au global, Medvedev. Alors, il a bénéficié aussi d'une petite hécatombe dans son côté de tableau. Puisque, voilà, les HK, ça a été vite dehors. Humbert, vite dehors. Taylor Fritz, vite dehors aussi.
mais Mikkelsen, c'était pas un cadeau.
Mais Mikkelsen, c'est pas un cadeau non plus.
Petit traquenard. Hein.
Et non, il a pas laissé de set en route hein, pour l'instant. Non, franchement, gros tournoi de Daniil Medvedev. On le disait sur le retour, ça se confirme.
Ouais, moi je suis pas trop surpris effectivement, mais je suis un peu surpris quand même des scores qu'il a infligés.
Mais c'est ça
maintenant.
Franchement,
voilà, à voir ce que ça va donner. Bon, là, il y a quand même un gros morceau qui l'attend.
Oui.
Mais non, je trouve ça bien pour notre tennis à nous, quoi. Hein, d'avoir un joueur, parce que quand il joue comme ça, il est top 10, quoi, Medvedev. Donc ça fait du bien de devoir retrouver un peu le sommet quand même.
Il a bien fait de changer d'entraîneur en fait.
Oui.
Peut-être. C'est l'effet. J'ai pas le nom.
L'effet Chardy. C'est l'effet Chardy.
Comment il s'appelle son entraîneur à Medvedev ?
Maintenant, je ne sais pas qui, j'avoue. Je ne sais pas qui c'est qui le suit.
Il y a Son à la fin. Bref.
C'est déjà pas mal.
Jackson Richardson.
Ça doit être lui, ouais, sûrement pas lui.
En tout cas, oui, c'est vrai que Gilles Servara n'est plus entraîneur de Daniil Medvedev.
Ouais. Mais c'est vrai que ça le perturbe pas trop hein, pour l'instant.
Ça a l'air bien,
il a bien bondi.
Voilà. Et ben...
Il a déclaré que c'était son meilleur tennis. Il jouait excellemment bien. Voilà.
Gilles Servara appréciera.
Il a dit ça à 5 partout 0-30.
Il a dit oh non les gars, je suis super bien, j'ai été gêné.
Bon, en tout cas, est-ce qu'il sera en mesure de surmonter la montagne Carlos Alcaraz en demi ? Réponse dans nos pronos un peu plus tard. That's
good stuff. All out of tech from Federer. Et je reviens juste à cette histoire de gêne là. Vous avez vu aussi le point en double avec Vacherot et.
Évidemment.
Et Rinder. T'allais en parler peut-être.
J'ai vu la séquence. Je sais pas si vous l'avez vu.
J'ai pas vu.
Ça m'a fait sourire. Bah, toi le spécialiste du double.
Mais
t'as
ce que
pas vu ça.
Comment ça, Simon ?
Alors, je vous explique, attends. Je regarde tellement les matchs la nuit de double que des fois je m'endors et je loupe quelques points.
Ah oui bah. Et tu l'as raté celui-là.
Et quel dommage.
J'étais en train de descendre une piste bleue là. Je suis sûr. À ce moment-là.
J'étais au pic de la chevreuil. C'est là où j'ai vu
la chevreuil.
Tout le monde sait où c'est. Mais du coup, oui, Richard, sur cette.
Ouais, Vacherot et Rinderknecht qui font. Alors, j'ai pas regardé les derniers résultats, mais qui font ou qui ont fait.
Ah, ils sont en demi-finale.
Ils sont toujours en lice,
Ils sont toujours en lice, ouais.
Voilà, et ils étaient donc. D'ailleurs, le match devait être très sympa, j'ai pas tout vu, mais contre Djoko et Tsitsipas, c'est bien ça. Hein. Voilà, il y a eu un point aussi assez. Voilà, assez rigolo. Ouais. Bah non, pas trop controversé, ils étaient tous d'accord.
C'était plutôt
les quatre au filet.
Mais
et voilà,
quoi,
effectivement,
en fait
bah, ça s'est terminé avec un smash un peu à mi-court de Djoko, je crois.
Tsitsipas qui le foire.
Voilà, qui foire son smash, qui le met à un mètre dehors.
Ah oui.
Mais c'est vrai qu'on voit effectivement sur les images que Rinderknecht, en bon filou qu'il est, au moment de défendre, a fait un ample mouvement de bras qui était manifestement, on peut le dire, gênant pour le smasher. Qui était Tsitsipas.
Oui, voilà. En plus, Tsitsipas, il lui en faut pas beaucoup pour le gêner. Hein.
Oui, bon, bah ça.
Peut-être, Marie. Balle comme tu
vas. Ta chronique arrive bientôt, Marc.
il me tarde.
T'es sur le starting block.
Mais voilà, on a des premières, une première idée du ton de ta chronique.
Mais c'était croustillant quand même de voir tous ces joueurs sur un terrain de double.
Hein, oui, c'est vrai plaisir, que c'est sympa.
Puis avec des pairs un peu qui sortent. Enfin, Tsitsipas, du coup, je la voyais pas venir.
Et puis les cousins, c'est cool, quoi.
Les cousins,
c'est sympa.
C'est beau.
Franchement, c'était cool. Non, ça fait plaisir de voir du double comme ça. Et je sais que Simon, évidemment,
t'en délectes. Je me suis régalé. Sadio, Dumba et. Dumbia et Reboul ont été éliminés en 8e de finale, il me semble, contre la paire tête de série numéro 1. Donc, on peut pas leur en vouloir.
On peut pas leur en vouloir.
Ils sont toujours en lice et en course pour les Masters de fin d'année.
Évidemment. Bon, allez, jetons un œil à présent sur les performances françaises. On en parlait avec Arthur Rinderknecht à l'instant. Côté masculin en simple, on reviendra sur la WT un peu peu plus tard. Dans l'ensemble, bon, bah, c'était assez compliqué. Hein. Corentin Moutet et Hugo Humbert sont tombés dès leurs entrées en lice respectives, victimes des terreurs Kovacevic et Mikkelsen. Terence Sattmann, idem, face à un Grigor Dimitrov qui fait pourtant un peu son âge maintenant, quand même. Quentin Alice face à Walton, Mpetshi Péricard face à Machrak, Manarino face à Berrettini. Bref, la liste est longue, mais un élément s'est une nouvelle fois distingué, c'est Arthur Fils. Après sa belle semaine dubaïote, où il avait joué la finale contre Carlos, il s'est de nouveau offert un quart de finale en Masters 1000, seulement stoppé dans son élan par Alexander Zverev, toujours là où il faut pas lui d'ailleurs. Son début de tournoi était assez sérieux, face à des joueurs assez à sa portée a priori quand même, mais c'est son succès face à Félix Auger-Aliassim, un élément du top 10 sur dur quand même assez solide, qui a rassuré sur son niveau actuel. Je me permettrai même de dire que c'était une victoire Génaliassim.
Oh, voilà,
ça allait travailler.
Je
l'ai maturé.
Et ouais, puis bien prononcé, elle est sortie d'un coup.
Elle est sortie d'un coup. Il n'y a pas eu de
s'est entraîné devant le miroir.
Pas de doute.
Donc voilà, Arthur Fils qui confirme son retour. Et Richard, je reprends une phrase que tu avais prononcée il y a quelques semaines.
Oui,
qui y revenait à peine et on voit déjà que c'est le numéro 1 français. Et bah ça se confirme.
Et oui, ça se confirme. c'est criant, quoi. C'est
vrai que c'est criant. Et
comment
chaque semaine,
c'est vrai. Oui. Mais comme tu l'as dit, cette victoire contre notre Québécois préféré, je parle pas de Garou, hein, je parle de Félix Auger-Aliassim. Je suis sûr que Garou doit être un bon tennisman, à mon avis.
Notre gros serveur.
Troisième série, gros serveur.
Gros serveur.
Il doit faire des bons cris quand il tape la balle. Bon, bref. Non, je n'ai pas roté. C'est. Alors, Arthur Fils.
C'est ta chronique, ça, que tu dis.
Arthur Fils contre Gélassi. Moi, j'ai vu le match. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment top, quoi, de le revoir à ce niveau-là. Même si depuis quelques temps, on sentait qu'il retrouvait un très très bon tennis, mais il fallait le confirmer contre un très bon joueur. Et ça a été fait techniquement, physiquement, mentalement, enfin à tous les étages, je l'ai trouvé vraiment au rendez-vous. Et voilà, super prometteur. Ça rassure sur son niveau, comme tu l'as dit, Enzo. Maintenant, j'ai vu aussi son match contre Zverev hier.
Plus compliqué.
Ça m'a pas forcément rassuré sur son niveau, mais je pense aussi que, voilà, là aussi, comme je le disais pour Jack Draper, il y a l'enchaînement. Et voilà, il faut qu'il retrouve le rythme, etc. Bon, il n'a pas été très bon du tout, hein, contre Zverev.
Après, Zverev a été très solide.
Ouais, mais mon fils, pour moi, est vraiment passé à côté de son match.
Oui, c'est vrai que le score est un peu sévère quand même.
Il y avait deux.
Ouais, donc voilà. Mais bon, j'attends de voir la semaine prochaine. Mais bon, ça fait un quart de finale quand même en Masters 1000. Il en a déjà enchaîné l'année dernière.
Voilà.
Est-ce qu'il va faire pareil cette année ?
Très bien.
On verra.
Oui.
Est-ce qu'il passe au numéro 1 français avec ce quart de finale ?
Je ne pense pas.
Je suis pas sûr
encore.
S'il va pas gagner de points du coup.
Non,
là,
mais non,
il est statu quo par rapport à l'année dernière.
Je défend pas grand chose en ce début de saison.
Ouais, il gagne pas grand chose non plus.
Voilà. Bah...
oui, statu quo, quoi.
Statu quo, voilà, c'est ça.
Voilà.
Voilà, c'est assez plat finalement tout ça.
Il faudrait juste qu'Arthur il arrête de péter des raquettes au moment où il perd, quoi.
Rinderknecht ou fils?
Rinderknecht, il commence à avoir l'habitude là, j'ai l'impression.
On parlait peut-être de Cazot.
Oui, c'est ou GA.
Voilà,
ça marche pour tous.
Il y a plein d'Arthur. Marine, pour Arthur Fils, qu'est-ce que ça te...
Ouais, non, plutôt cool. Moi, j'ai apprécié le côté rassurant mentalement, surtout. Parce que le tie-break, il était quand même mené 5-0 par Auger Aliassim. Il remonte 5-5. Après, il est mené... Non, il remonte pas 5-5 du tout. Il est mené 6-3. Non, il est mené 6-3.
Il y a 3 balles de 7, oui, effectivement.
3 balles de 7 pour Félix. Il les sauve. Après, il y a encore une balle de... Enfin, ça se bataille un peu. Et au final... Deuxième balle de match, il arrive à conclure. Donc je pense que, outre le côté physique qui va revenir forcément, je trouve que le mental, c'est quand même quelque chose qui est assez difficile à entretenir quand on ne fait pas de compétition. Mmh. Et de le voir revenir, voilà, et puis de remonter face à un joueur aussi compétent que Auger Aliassim, bah, c'est assez confortant pour la suite. Donc,
Et puis dans son jeu, il est rassurant.
Ah, et côté
il
revers,
a rien perdu.
Ouais.
Bah moi je trouve que côté revers, depuis l'année dernière en tout cas, il y a un gros changement,
il y a
une belle évolution.
Gap, ouais. Hein. Clairement.
Il est solide, il est costaud, il tape fort, il met du volume. Enfin, voilà, je le trouve peut-être pas aussi bon qu'en coup droit, mais il a un revers qui s'en rapproche beaucoup maintenant de son
coup droit. Qui commence vraiment à être.
Ça fait vraiment plaisir.
Comme tu dis, ouais, le gap.
Un Français qui est aussi bon des deux côtés. Je sais pas depuis combien de temps ça n'est pas arrivé ça. Puis Sébastien Grosjean peut-être.
Richard Gasquet.
Ah,
à côté coup droit.
Côté coup droit, c'était friable.
C'était pas, c'était un peu friable. Ouais. Mais non, mais c'est vrai que, effectivement, une belle semaine encore pour Arthur Fils, c'est bien. C'est, la confiance revient, il en emmagasine. Et il va falloir que ça continue pour les prochaines semaines parce qu'on a besoin d'un Arthur Fils à très très bon niveau. Et si Arthur Fils nous semble sur le chemin de la rédemption, Marine, ta chronique va aborder la trajectoire totalement inverse d'un joueur dont la chute semble sans fin. Et je promets que je n'ai pas fait de lobbying pour avoir cette chronique dans l'émission. Car tu vas bel et bien parler de Stefanos Tsitsipas.
3, 4, foot. Sourire carnassier que j'aborde cette chronique. Alors, on va commencer par un peu de français, ça fera plaisir à Simon. Je vais vous dire des mots, des expressions, et puis vous allez me dire à quel joueur de tennis ça vous fait penser.
Ah, on joue ?
Allez, on joue.
Allez.
Ok, ça va ? Jusque-là, les règles, c'est bon, c'est ok.
On rappelle qu'il faut répondre si tu y passes à chaque fois, visiblement.
Chut, il fallait pas le dire. Bon, si je vous dis grec, vous me dites ?
Kebab.
Joueur grec.
Yannis Antetokounmpo.
Joueur de tennis grec actuel.
Titi passe.
Allez, Titi passe.
Ok, si je
mais lequel? Il a un frère quand même.
Et un père.
Connu. Si je vous dis Badoza.
Titi passe.
Si je vous dis revers à une main très foireux.
Oh, il y a celui de Richard.
Là, je peux rentrer dans le game.
Ricardas.
Titi passe,
on est d'accord. Une carrière en dégringolade complète.
Ah, Titi passe, là, oui.
Un joueur sur lequel il faut jamais parier.
Titi passe,
oui, ça marche aussi.
Passe, oui.
Un miracle quand il passe le premier tour.
Non, mais c'est 8 millions pour lui.
Oui, là, ça me trouve.
Non, mais on parle de qui, là?
Titi passe. En plus, il a dit qu'il adorait notre émission. Moi, ça me gêne, quoi.
C'est vrai.
Titi passe.
Ouais, il l'a dit en grec, on n'a pas traduit.
On a pensé que c'était ça.
Non, bah oui, donc aujourd'hui vous aurez bien compris qu'il n'y aura pas d'éloge de Titi Pass parce que simplement une chronique ça doit durer plus qu'une minute 27. Mais bon, on va peut-être pas faire l'inventaire complet de la décadence du grec parce que là on est encore là demain. Il y en a qui veulent dormir le soir, je suppose. Bon, le but, aussi alléchant soit-il, n'est pas non plus de descendre gratuitement un joueur pour le plaisir. On est gentil ici. On va essayer plutôt d'analyser finement les raisons de la chute libre de notre petit Steph. Non, c'est pas vrai, je vais clairement le descendre gratuitement, pour mon plus grand plaisir. Non, mais parce que la chute est quand même vertigineuse. On parle quand même d'un gars qui était dans le rouge, enfin qui est dans le rouge toujours depuis 2022. Alors quand je dis dans le rouge, je dis pas que son banquier hurle, je dis plutôt que son compte TNUP hurle. Non, mais compte TNUP grec, hein, on précise. Le mec ne fait que descendre au classement depuis 2022. Et pour un ancien numéro 3 au classement ATP qui avait tout pour venir former, on rappelle, le nouveau top mondial inatteignable, c'est franchement désolant. Il sort du top 10 en 2024, du top 30 en 2025, et actuellement, il est carrément hors du top 50. Alors, bye bye la tête de série, ça fait mal, quoi. Alors, autrefois, tu te le prenais au premier tour, tu pleurais. Maintenant, tu lui rigoles plutôt au nez. Honnêtement, t'y vas dans les poches, quoi. Tout le monde ici peut gagner contre lui, j'ai aucun doute là-dessus. On parlait du mental, justement, tout à l'heure, comme quoi c'était dur à retrouver, à entretenir. Est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher une faiblesse mentale? En un sens, oui, parce que physiquement, le Gugus, il a 27 ans, il n'a pas énormément eu de pépins physiques remarquables et il plafonne quand même au plus bas.
Oui, puis ses performances commencent à dater quand même, mine de rien.
Eh bien oui, et justement, alors j'ai essayé de chercher peut-être des événements qui auraient pu expliquer une quelconque chute. Et par exemple, en Grand Chelem, donc il rallie la finale de l'Open d'Australie en 2023 contre Djoko, deuxième fois dans sa carrière qu'il arrive en finale. Il perd en 3-7, bon, aïe, après c'est Djoko, on me dira, voilà. Et puis à partir de là, son parcours en Grand Chelem, c'est totalement désastreux. A contrario de son classement, du coup, qui reste, donc en 2023-2024, toujours proche du top 10, depuis mi-2024, sa meilleure perf en Grand Chelem, c'est le deuxième tour.
C'est vrai, c'est
dur. Ah ouais, c'est du grand n'importe quoi. Donc la finale perdue, c'est sûrement pas encore digéré. Peut-être quelque chose qui a forcément joué un rôle dans sa chute. Mais bon, mentalement, si tu sais pas te relever de grosses défaites, c'est compliqué de faire quelque chose après, par la suite. Hein. Surtout quand on est joueur professionnel. C'est son métier, quand même. Hein. Et puis, je parlais des grands chelems, mais en Masters 1000, c'est la même chose. Il a gagné Monte Carlo en 2024 contre Rud, mon petit chouchou. Et après, un fantôme, le gars. Hein, la plus haute perf, c'est 8e de finale, ce qui est objectivement très lambda pour un joueur de cette trempe. On rappelle qu'il est annoncé comme un des leaders de la next-gen qui succéderait au Big Three. On ne l'a jamais vu, cette next-gen, et on n'a jamais vu ce Titi Pass.
C'est pas Enzo qui a dit ça.
Non, c'est certainement pas moi. Non.
Et puis au final, c'est toujours Papi Djoko qui continue de mettre des trempes à tout le monde, mais c'est OK. Donc bon, Steph, pas au point. Et puis ce qui est chiant, c'est que t'as quand même pas l'impression qu'il essaie de faire quelque chose pour y remédier. Alors, le coaching avec papa, je comprends même pas. Enfin, je comprends toujours pas comment ils se sont pas entretués. À un moment donné, on voit tous ce qui se passe. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. Même Steph, il a tenté de partir avec Ivan Isevich, qui n'a pas duré longtemps. On sait tous pourquoi. Et puis, au lieu de rechercher quelqu'un d'autre, il retourne avec papa. Alors oui, sortez les violons, c'est la première personne qui a cru en lui, blablabla. Oui, bon. Tu plafonnes, il faut faire quelque chose pour changer, quoi. À un moment donné, c'est pas le monde des bisounours. Et puis bon, il n'y a pas que ça comme souci, techniquement parlant. Tu peux pas te pointer contre des joueurs aussi réguliers que ce qu'on peut trouver sur le circuit avec un trou d'air de cette ampleur en guise de revers. Enfin, en parler quand même, quoi. Limite, il fait plus de air tennis qu'autre chose avec son jeu. Enfin, le nombre de bois qu'il doit faire par match, c'est catastrophique. Et puis, il s'adapte jamais au jeu du gars en face. Sa seule strat, c'est de combler ses lacunes en revers en se décalant le plus possible en coup droit et en tapant fort dans la baballe. Bon, après cela dit, la strat est simple pour les adversaires. On bombarde le revers. Et puis, quand tu regardes ces matchs, bah, c'est vraiment ce qui se passe. Ils servent fort sur le revers. Et puis, bah, ça passe à chaque fois. Et d'ailleurs, en parlant de ces matchs, alors, j'ai des petites stats sympathiques. Sur 6 rencontres contre Carlos, 6 défaites. Aïe.
Ça peut arriver.
Ça peut arriver.
Ça peut arriver à des gens.
Ça doit pas être le seul.
Ça peut arriver à des gens.
Mais bon, ça, ouais. Quand même, Stefanos Tsitsipas, quoi. 14 confrontations avec Djoko, 2 victoires. Vous me direz,
c'est pas si mal.
C'est des monstres, hein, c'est pas n'importe qui. Mais contre, par exemple, un Chapovalov un peu plus abordable.
Les gars, contre les deux.
Sur 7 rencontres, 5 défaites. Et la dernière, il y a quelques jours, justement, à Indian Wells. Au premier tour. Donc bon, après l'avoir bien bombardé comme ça, on va peut-être chercher les raisons, un mini burn-out, un manque de passion, d'envie de continuer, c'est très probable. Physiquement, il tient, mais c'est pas sans sas. Mentalement, ben, c'est bien plus que friable. Il nous a lâché des sacrés colères quand même. Hein. On se rappelle de ses perfs contre un Medvedev ou un Kyrgios. C'est quand même dans les grands moments du sport. Et puis, il y a un autre facteur aussi. Il porte peut-être le poids de son pays sur ses épaules. Bah oui, c'est le seul joueur grec qui est en haut du classement. Pas de panique, Steph. Il y a un deuxième Steph qui va prendre le relais. Le prochain sur la liste, c'est alors Stefanos Sakelliradis, 219e joueur mondial, 21 ans. Alors d'ici quelques mois, on observera peut-être un échange de Stefanos et on espère que celui-là tiendra un peu plus longtemps cette fois. Non, parce que les Grecs, franchement, tennistiquement parlant, c'est pas top, hein, entre Sakari et Tsitsipas. Il y a de quoi vouloir s'expatrier, quoi. Hein. Enfin bref, tout ça pour dire que le tennis, c'est dur, autant physiquement que mentalement. Et franchement, bah, quand ça va pas, bah, ça va pas. Voilà. Bah, puis après, bah, faut se bouger quand même pour remonter la pente. Ouais, mais moral, c'est vraiment quelque chose.
Belle conclusion.
C'est très pertinent. Et puis, remonter la pente, on n'attend plus que ça, hein, de la part du Grec. Alors, j'ai un peu d'espoir. Hein, l'espoir, ça fait vivre. Donc, vivons derrière Tsitsipas. Non, je rigole. Dans 2 ans, il est à la retraite. C'est fini.
2 ans, peut-être pas quand même.
1 an et demi.
Il a quel âge, Stéphane?
Ouais, 27, 28. 27, il n'est pas très, très vieux.
Il a quel âge? Il a 27, 27 ans seulement.
Ouais, il n'est pas très, très vieux. C'est un 98, hein, je crois.
Ouais, 98 ou 99. Il ne passera pas la trentaine. Hein.
Ce qui est fou, c'est que tu te dis que sa carrière va être longue, hein, s'il finit à 35 ans.
Oh là là.
Ouais, tu te demandes. Bon, après, il peut y avoir un déclic. Il peut y avoir un déclic.
C'est une carrière.
On l'avait
c'est
plus
des claques avec Marie.
Oui, c'est vrai que c'est des claques.
On n'est pas là pour faire dans la dentelle ici. Hein. C'est bon, il faut dire les choses à un moment donné. Hein.
Non, mais voilà, est-ce que c'est juste un trou d'air ou est-ce que c'est vraiment un déclin voilà. Est-ce que lui a vraiment envie de repartir en avant?
Bah, c'est ça, tu le vois jouer, franchement, t'as pas l'impression qu'il a envie de continuer.
Parce que même s'il y a matière un peu à le critiquer depuis quelques années, bon, c'est quand même un mec qui était dans le top 5. Qui a fait des super perfs en grand chelem. Enfin, il y a quand même un niveau qui est un peu meilleur que celui qu'il nous présente aujourd'hui. Donc,
ah, bah c'est clair. Hein.
Il y a de l'espoir, mais.
Il n'est pas si vieux que ça.
Non.
Bon. C'est à lui d'aller le chercher.
Mais
quoi.
2 ans de trou d'air.
Ouais, ça fait long. Hein.
Ça fait long. Faut boucher le trou à un moment donné.
Et puis,
quoi,
plus tu descends au classement, plus ça. Enfin, moins ça pardonne. Hein, après,
ça c'est sûr.
C'est compliqué de revenir, surtout quand on voit le top 10 actuel.
Je pense qu'il devrait faire un petit tour par les challengers, ça lui ferait du bien.
Ouais.
Challenger de Saint-Brieuc l'année prochaine.
Allez, bam.
Tête de série.
Challenger de Cherbourg, là. À Pau, au Térégat.
Ben ouais.
À Pau. J'ai Jérémy Chardy, pourquoi pas.
Ouais, non, ben ouais.
Ouais, gros déclin, effectivement, pour Stefanos Tsitsipas. Merci, Marine, pour cette chronique
Marine qui nous
incendiaire.
Avec plaisir.
Pas dans
toujours.
Cette chronique.
Ouais, effectivement. Et donc, je vous l'avais annoncé aussi en début d'émission, c'est l'heure d'une nouvelle rubrique.
Oula, qu'est-ce
dans
que c'est
Pleine Balle. Et qui dit nouvelle rubrique dit forcément nouveau jingle.
Certaines infos sont importantes, il faut en débattre, et d'autres, bon, mais on peut en parler, quand même.
Du coup, on en parle ?
On en parle.
Allez, on en parle.
Mais oui, vous l'avez compris.
Ça promet.
Ça promet.
c'est l'heure des infos.
Je sais pas quel sera le niveau de la. De voilà, la rubrique,
je sais pas non plus.
Le jingle est déjà pas mal.
Est déjà pas mal. Ouais. Non, voilà, c'est un peu l'heure des brefs de comptoir. J'ai pas trop de noms encore pour cette chronique. C'est des infos qui existent. Voilà, okay. Je trouve que ça peut être sympa d'en parler. Voilà, ça mérite pas forcément qu'on s'y épanche pendant 4 heures, mais voilà, ça existe. On tente et on verra. Voilà, okay. Ça peut faire un four. C'est peut-être la première et dernière fois.
Et bah, tentons.
Tentons. Alors, la première petite info que je voulais aborder, c'est des nouvelles de Nick Kyrgios.
Ah,
eh ben oui.
Ah oui,
voilà, vous voyez.
Nicolas.
Bah, et ben justement, Nicolas, que devient Nicolas, l'enfant terrible du tennis australien qui lui aussi fait un pas de plus vers la retraite en poursuivant ses investissements dans le pickleball. Notre cher Nicolas est désormais actionnaire et ambassadeur de la société américaine The Pickler, une firme florissante du tennis léger. Le finaliste de Wimbledon 2022 est un fan absolu de la discipline, hein, comme d'autres anciennes gloires du tennis comme Sam Querrey, Eugénie Bouchard, ou encore Mister Chaussette, Jack Sock évidemment.
Oui.
Ce nouveau,
Jack Chaussette.
Ce nouveau partenariat va nous offrir aussi une pièce rare que les collectionneurs du monde entier rêvent déjà d'exposer dans leur salon. Écoutez bien, une raquette signature de Nick Kyrgios, très modestement appelé The Kyrgios.
Bah, fallu lui trouver un nom. Bon.
La raquette, elle est en deux morceaux, non?
Oui, ah ouais, comme son genou. Ouais. Ouais.
J'adore.
Allez, ça balance pas mal.
Oui, évidemment. Non, mais The Kyrgios, voilà. Bah, si vous voulez, écoutez, si vous voulez une raquette de pickleball, vous pouvez vous procurer la raquette The Kyrgios. Je tiens à préciser qu'il faut aller vite, hein, puisque c'est une édition limitée.
Ah ouais. Et t'as le prix ou pas?
Non, j'ai cherché longtemps, j'ai pas trouvé le prix. Il y a peut-être une raison. Elle est disponible seulement jusqu'au 17 mars.
Ok. Est-ce qu'on la trouve chez Decat, Intersport,
seulement à Las Vegas.
Ah, ok, le Decat de Las Vegas.
Le fameux Decat nom de Las Vegas.
Qu'on embrasse, le Decat de Las Vegas.
On les embrasse, évidemment. Voilà, le petit bisou protocolaire. Voilà, non, mais écoutez, voilà, j'avais envie de vous donner une petite nouvelle de Nick Kyrgios. Voilà.
Et bah, ça fait plaisir.
Franchement.
Il a l'air d'aller bien.
Écoute. Pickleball.
Mais moi, je pensais qu'il revenait, moi.
Ben ouais, moi aussi.
Allez, deuxième info.
Il revient tous les ans.
Ouais, non, mais aux dernières nouvelles, il s'était pas re-blessé, là.
Bah non, j'ai pas trop. J'ai essayé de chercher un peu son historique, un peu de lien avec le tennis, finalement, parce qu'on sait pas trop ce qu'il venait. Et c'est vrai que non, il avait pas de blessure proprement parler. On l'a vu commenter à l'Open Australie, mais voilà.
On
l'a vu jouer contre Sabalenka dans la Coca-Cola Arena. Ça vous donne une idée, quand même, de la carrière, mais c'est mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Voilà, une petite nouvelle de Nick Kyrgios qui se met au pickleball, donc.
Génial.
Deuxième petite info, on revient du tennis quand même à quelque chose de plus intéressant. Là aussi, on va parler d'une presque retraitée, Venus Williams. Bah oui, quand même.
Venus Williams.
Presque retraité.
Non, j'ai dit presque. J'ai dit presque. Pas encore. À 45 ans, elle tient la forme.
Le meilleur est devant elle.
Mais bien sûr, elle sort de rodage. Notre chère Venus, qui a d'ailleurs réussi le grand chelem pour ce tournoi d'Indian Wells, puisqu'elle a obtenu la wildcard pour tous les tableaux possibles. Et oui. A-t-elle réussi à transformer ses invitations en bons résultats? Regardons tout ça. Alors en simple, défaite contre Diane Parry au premier tour. Bon, en double mixte, Simon, tu n'as pas pu rater ça.
Non, mais c'est dur à entendre.
Elle était alignée avec le fameux Christian Harrison.
Il y a eu quack.
Défaite au premier tour contre la paire Schurz et Cash.
Si je peux dire un petit mot, c'est surtout Harrison qui a très mal joué. Williams n'a rien à se reprocher.
On peut dire qu'elle a pris cher contre Cash.
Effectivement. Je te donne un petit billet pour ça.
merci. Bref, et en double féminin, elle formait un duo avec Leila Fernandez.
Ça, c'est un scandale.
La canadienne.
Ça, c'est un scandale.
Eh ben, elles ont été oubliées dans le tableau.
Oh merde! Oh, c'est con ça!
C'est pas une blague, Richard. Quoi? Je crois que tu as vu passer l'info.
Évidemment, je peux pas rater cette info.
Ah, l'organisation du tournoi a déclaré avoir oublié prendre en compte la wildcard de Venus Williams.
Mais comment ça, ils ont oublié.
Et comme le tirage au sort était déjà effectué quand ils se sont aperçus de l'erreur, et ben ils ne pouvaient pas la réparer. Donc ils ont oublié de la mettre dans le tableau. C'est absolument génial, je trouve.
Je trouve ça dramatique.
Enfin, un peu dramatique quand même.
Un de ces derniers tournois, certainement. Venir comme ça. Mais t'es obligé de revenir l'année prochaine à Indian Wells.
Bah voilà, c'est ça. Ça nous l'a ramené pour l'année prochaine.
Mais comment ils ont fait leur tableau?
Je sais pas comment ils ont fait parce que c'est quand même informatique. Donc je sais pas.
Bah ça, je vous le dis, c'est l'IA. Une erreur comme ça.
Ça peut être cool qu'on l'IA.
Nathalie Trancard, la GIA. dans le coin, elle aurait pas fait la connerie.
Ah bah, jamais fait ça.
Jamais.
On embrasse. Elle prend peut-être 10 heures pour faire le tableau, n'empêche qu'il est nickel. Il est carré, il est comme ça.
Bah, donc voilà, je voulais quand même dresser une petite. Voilà, en parler de cette info quand même.
Oublier dans un tableau, ça c'est.
Et oublier Venus Williams quand même.
Oublier une wild card que t'as donnée, c'est quand même chaud quoi.
Franchement, c'est un peu bête, c'est un peu ballot. Voilà.
Ouais.
Donc voilà, c'était les deux petites brefs de comptoir. Je voulais voilà, balancer comme ça un petit peu à brûle pour point finalement.
Ouais, mais bien
t'as bien fait. Bien
voilà, vu. Ça reviendra peut-être dans l'émission d'ailleurs. Hein, voilà, ouais. Si quelqu'un a envie de partager une brève de comptoir dans les prochains numéros, on y va, on se fait plaisir. C'est fait pour ça. Pleine balle, ça continue. Et passons à présent au tournoi féminin, toujours à Indian Wells. Quelques surprises à signaler dans le tableau. La première, c'est la présence en quart de finale d'une joueuse issue des qualifications, Talia Gibson, 112e mondiale avant le tournoi, qui a réalisé la plus belle semaine de sa carrière en battant notamment 3 top 20, Alexandrova, Clara Towson, gagnante de l'Open de Caen, quand même.
La Danoise,
effectivement, et Jasmine Paolini, rien que ça. Son beau parcours a pris fin hier soir avec une défaite contre la Tchèque Noskova, 14e mondiale. Jusque-là, elle n'avait gagné que 3 matchs sur le circuit principal. Rien qu'à Indian Wells, elle en a gagné 6. Voilà,
pas
ça,
mal.
C'est fait. Autre surprise au même stade du tableau, la nouvelle contre-performance d'Iga Świątek. Elle s'est inclinée face à Svitolina, qui elle, pour le coup, confirme sa grande forme début 2026. La Polonaise qui perd sa place de dauphine de Sabalenka.
Ouais.
Elle est désormais 3e au classement au pif WTA. C'est Rybakina qui accède ainsi à son meilleur classement en carrière, 2e donc mondial à partir du prochain classement lundi. Mais la joueuse qui va nous intéresser pour ce petit débat, elle fait elle aussi partie des déceptions de ce tournoi d'Indian Wells. C'était elle aussi la tenante du titre, comme Jack Draper qu'on évoquait tout à l'heure. C'est Mira Andreeva. La jeune russe avait réalisé un doublé époustouflant l'an dernier, enchaînant 2 titres en Masters 1000 à Dubaï et à Indian Wells. Cette année, c'est beaucoup plus difficile. Son aventure californienne a tourné au vinaigre. 2 matchs à la physionomie complètement différente, hein, puisqu'elle met 2 bulles à Sierra, 65e mondiale, avant de perdre contre Siniakova, 44e. Et au-delà des résultats, c'est son comportement qui a fait parler, avec quelques mots bien sentis à l'encontre du public californien.
Un comportement de petite peste.
De petite peste. Mmh. Et donc, j'ai une question. Et là aussi, j'ai un jeu de mots très travaillé.
Oh là là, il est chaud ce soir.
Non, mais il est exceptionnel, je l'ai vu.
Tu l'as vu, hein.
Ah ouais, non, c'est génial.
Oh là.
Peut-on dire Mirage Andreeva?
Oh là, pas mal. Ouais, pas mal.
Dans le désert, en plus, ça tombe bien. On va dire
Californie. Alors pourquoi donc... c'est énorme? Elle s'appelle Mira Andreeva.
Oui, voilà, faut compter.
Et un mirage, c'est quoi? C'est quelque chose qui passe sans qu'on le voit vraiment, en fait.
C'est une illusion.
C'est une illusion. Et c'est quelque part le parcours d'Andreeva dans cette Indian Wells.
Merci, Simon.
Merci, Simon, pour cette contextualisation absolument parfaite et nécessaire.
Magnifique.
Et non, mais sinon, qu'est-ce qu'on en pense, là, de ce petit passage à vide de Mira Andreeva? Est-ce que c'est passager? Est-ce que ça va s'inscrire peut-être dans une durée un peu plus longue? Un peu plus compliquée, comme pour elle, là, depuis presque un an, finalement. Marine.
Ah ouais, un an.
Bah depuis son doublé, en vrai, depuis son doublé, là justement, Masters 1000 au printemps dernier, elle a des résultats corrects. Hein, on va pas non plus dire qu'elle fait que des firsts, mais c'est pas non plus pour une top 10, c'est assez compliqué quand même.
Donc,
elle est très très jeune, voilà.
Ouais,
ça, c'est
surtout
là quoi, la 18 maintenant.
18.
C'est une 2007, je crois.
Ouais, rien que ça déjà, c'est assez.
Ah ouais, c'est ça.
Elle a 18 ans, effectivement.
Ouais, voilà, 18 ans.
Elle va avoir 19 ans le 29 avril.
Ah bah ça approche à grands pas, ça.
Approche à grands pas, on ne manquera pas de lui souhaiter bonne année. Voilà.
Non, mais c'est mentalement où ça flanche.
Eh ben oui.
C'est, techniquement, il n'y a rien à dire. Elle tient tête à des Sabalenka, à tout ce qu'il faut, mais mentalement, c'est vrai que c'est une petite fille, quoi. Donc c'est logique, forcément. C'est dur, quoi. Enfin, l'interview de fin de match de son premier tour, on lui demande si elle a passé le permis. Voilà, les obligations sont très différentes pour elle, quoi. Donc,
ça, c'est des questions importantes. Hein.
Et puis voilà, elle arrive en tant que tenante du titre, beaucoup de pression, je suppose, parce que elle sait qu'elle doit rallier la finale pour défendre ses points. Donc, moi, je lui pardonne. Ça va.
Oui, non, mais je
pense que c'est passager.
Et on lui pardonne tout.
C'est ce que je disais, je crois, la dernière fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu arrives sur ce circuit-là, t'as beau être mort de faim, t'as beau avoir beaucoup de talent, etc. Je pense que c'est un monde qui est compliqué. Ouais. Et on prenait l'exemple de Fonseca la dernière fois. Moi, je pense que c'est un petit peu pareil pour André.
Oui, c'est ça.
Ça n'empêche pas qu'il y ait un gros potentiel. Et à mon avis, ça va cartonner dans les prochaines années. Mais elle a le droit d'avoir un petit passage à
l'église.
Voilà, je pense que Conchita va vite la mettre sur les bons rails. Je me fait pas de soucis pour elle.
Elle est à bonne école.
Elle est à bonne école.
Ça se voyait qu'elle était pas bien parce que dans son match où elle perd, justement, il y a des moments où elle joue super bien, elle remonte le set ou quelque chose comme ça. Puis après, elle perd. Mm-mm. D'un coup, elle pète un câble.
D'un coup.
Mais non, en fait, tu dis, elle a le match en main et en fait, non, elle l'a plus, elle le retrouve, etc. Donc, ouais, c'est mentalement. Mais elle bat plus les top 10 depuis le début de saison.
C'est vrai qu'on peut
depuis
un peu...
sa victoire à Adélaïde en début d'année.
Voilà, c'est ça. Il y a un bon résultat.
Elle a perdu Mboko, Svitolina, Anisimova aussi.
Mais tout le monde ne bat pas des top 10. Sviatek est sur 5 défaites consécutives.
Oui, c'est vrai. Ça, mais t'as pas besoin de le rappeler.
Svitek,
non, mais si je peux me permettre.
Je peux me permettre.
Svitolina a bénéficié d'un abandon à son tour précédent. Donc
et alors
elle était rodée physiquement,
et
d'accord. Et si je peux me permettre, deuxièmement, elle a quand même mis 2 fois 2 bulles, Svitek. Alors voilà.
Mais moi, je me suis dit, quand j'ai vu le début de tournoi de Svitek, je me suis dit, bon, peut-être qu'elle est de retour quand même.
Vraiment, je me suis dit, ça y est. C'est le retour du rouleau.
Une bulle par ici, une bulle par là. Bon, ça commence à. Bon, après, elle est tombée sur Svitolina, qui est un peu la madame en forme
et
là,
ben, ouais, hein,
en
avec
ce moment voilà, quand j'ai vu qu'au premier tour elle avait réussi tant bien que mal à sortir Sigmund en 3-7 accroché, quoi, je me suis dit bon, c'est Svito avec une chaude bouillante à Indian Wells là.
Et va au bout.
Donc quand tu sors Sigmund, bah, tu sors forcément Svitek derrière,
bien sûr. C'est une formalité d'usage.
Dans un théorème, il y a Pythagore, il y a Thalès et
Sigmund.
Et Sigmund.
Le théorème de Sigmund, évidemment. Eh bien, justement, on va peut-être en reparler dans pas très très longtemps de ces demi-finales du tournoi d'Indian Wells. Et oui, puisque ces demi-finales, donc, elles nous offrent un choix des possibles très restreint. C'est donc l'heure de faire parler nos dons de voyance avec nos pronos. Les pronos de pleine balle made in Indian Wells pour cette émission. On va essayer de faire mieux que la dernière fois, hein, parce que Mérida, ça n'avait pas été du gâteau. On va pas revenir là-dessus en détail, parce que c'est vraiment pas glorieux. Mais on avait quand même donné 4 joueuses différentes. 2. Il n'y en avait qu'une en demi-finale, même oui, pas en finale, vrai. Genre en demi. On avait vraiment, c'était quasiment un carton plein dans le mauvais sens du terme. Bref, on va commencer avec le tournoi féminin, tiens, vu qu'on parlait du tableau justement à l'instant.
Bah là, elles sont plus 4 et on est 4.
Et bien voilà.
On leur donne une différente, normalement.
Normalement.
C'est peut... Venus Williams qui va gagner.
Donc rappelons les demi-finales pour celles et ceux qui n'auraient pas le tableau en tête ou sous les yeux. On a une première demi, Sabalenka-Noskova. En haut du tableau et en bas, je n'ai pas le tableau qui fonctionne.
Rybakina, c'est bien Svitolina.
Rybakina, Svitolina, merci.
Évidemment.
Voilà. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Qui veut se lancer?
Rybakina.
Rybakina voilà. Pour Marine.
Oula, d'habitude, il y a plus de réflexions avant tes.
Ouais, mais là.
Tes choix.
Voilà, elle est vraiment très en forme, elle est très compétente.
Très compétente.
Elle est compétente.
Elle joue bien. non, je pense que Svitolina, ça va passer. Et en vrai, Sabalenka, elle a toujours un petit flanchage en finale. Flanchage, ça se dit?
Oui, ça se dit.
Flanchagé, ouais. C'est le nouveau Dico de façon 2026.
Voilà, c'est ça.
Je pense Rybakina.
Moi aussi, je dis pareil, Rybakina.
Oh, mais non, fallait indifférent.
Non. Mais non, parce que contre Svito, elle a fait plusieurs matchs en 3-7 fatiguée. Donc elle va perdre contre Rybakina. Ensuite, Noskova Sabalenka, on prend pas trop de risques à dire Sabalenka. Et. Surprise, moi je crois à la surprise, Rybakina, qui en plus sait qu'elle va être deuxième, donc euphorique, etc.
Moi, qu'elle lui remet la pilule de l'Australie, donc.
Bah oui, c'est ça.
Ok, d'accord.
Jamais 1-102, comme on dit.
Jamais 1-102, effectivement. Richard.
Moi je suis très Svitolina en ce moment.
Bah oui.
Je suis très Svitolina, madame mon fils. Sky Mom.
Tu vas le chercher tous.
Sky
là.
Mom.
Mais bon. Voilà, je pense qu'elle monte en puissance.
Ça veut dire maman de Sky, si
je
te vois.
Je comprends rien.
Maman Sky du ciel, mom. Même.
Maman du ciel.
Maman du ciel,
Sky,
évidemment.
C'est la fille.
Oh, oui. Simon, t'es pas assez gossier.
Sky.
Ah, ils
Sky.
Ont une fille qui
ouais,
s'appelle
c'est
Sky.
C'est un prénom.
Voilà. Ah, c'est un prénom qui s'appelle. Okay.
Pas l'alcool.
Ciel. Ok.
Donc, ouais, moi je verrais bien Svito bien embêter Rybakina. Allez. Je dirais qu'elle va passer Rybakina. Mais pour moi, ça n'ira pas au bout. Pour moi, ça n'a. Allez, pour moi, la surprise du chef, c'est Noskova sur
Allez, on y va.
Noskova gagne le tournoi.
Noskova.
Mais t'as craqué, mon pauvre.
Nous verrons ça dans 3 jours.
Après. Nous verrons ça, effectivement.
Deux jours.
Dans 2 jours.
Dans... Ouais.
Oui, dans 2 jours.
Dans demain, presque.
Dans demain.
Les demi-finales sont cette nuit, donc oui, alors oui, nous, c'est dans 2 jours, mais bon, c'est dans, ouais. dans quelques heures. Wow. Ce week-end. Eh bien, moi, je vais aller sur Svitolina. Voilà.
Ok, bon, ça me fait plaisir.
Ouais,
personne sur Sabalenka.
Non.
C'est redondant.
C'est redondant, à un moment donné, voilà, on veut voir autre chose. Mais et puis, Indian Wells, c'est un tournoi qui sourit souvent à des surprises quand même.
Oui.
L'année dernière, on avait eu quand même Draper et Andreeva qui avaient gagné.
Oui.
Rappelez-vous que Cameron Norrie avait remporté ce tournoi il y a quelques années.
Oh là là.
C'est vrai.
Contre Basile Ejvili en finale en plus. Hein. T'es mal
contre
à la
qui
Basile Ejvili.
Épelle-le.
Kamoulox.
Et puis Sabalenka, elle a perdu 2 fois en finale, je crois, en plus, Indian Wells. L'année dernière, déjà.
Oui, c'est vrai.
Et une autre fois, je sais plus contre qui, mais...
Donc
non mais on ne boit pas comme ça, t'es en direct.
J'ai soif.
Laissez-moi boire.
Ah, soif.
Glou, 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 glou,
et si seulement c'était de l'eau en plus.
Et vous ne savez même pas ce qu'il y a dans cette gourde. Bref, et bien donc, voilà nos pronos. Donc on a 2 Rybakina, 1 Noskova et... Svitolina, en ce qui me concerne.
Pour le coup, vous savez quoi parier.
Voilà, vous savez évidemment parier sur Sabalenka. Chez les messieurs, cette fois, nous avons des demi-finales assez classiques, hein, presque les 4 têtes de série en demi. Mais non, il y a Medvedev qui s'est glissé là-dedans. On a Alcaraz Medvedev en haut et Zverev Sinner en bas. Est-ce qu'on aura encore Alcaraz Sinner? Telle est la question. Est-ce que quelqu'un va réussir à battre Carlos Alcaraz cette saison? Parce qu'il est toujours invaincu, rappelons-le.
Bah, moi j'y crois.
Ok.
À quoi?
À Medvedev qui bat Alcaraz.
Ok.
Oh.
Ça fait 6-2 en confrontation là. Il est sur 3 défaites d'affilée, peut-être 4 défaites d'affilée contre Alcaraz.
Mm-hmm.
Bah, je pense que c'est en ce moment.
C'est là.
C'est là, il y a eu le déclic, il n'y a plus d'entraîneur. Ça y est, il joue bien. Enfin, il y a un nouvel entraîneur pour Medvedev. Je pense que. Si fallait parier sur quand est-ce que Medvedev pourrait battre Alcaraz, ce serait maintenant.
C'est maintenant.
Maintenant. Et je fais l'autre côté du tableau, hein, on y va
allez,
amplement.
Vas-y.
Zverev, Sinner. Bah, Sinner. J'ai du mal à croire que Zverev puisse passer, surtout vu le niveau de Sinner. Parce qu'à part Fonseca qui a très bien joué.
Oui, effectivement.
Sinner, il a mis des bulles à tout le monde. Je pense qu'il va mettre 6-4, 6-4 à Zverev.
C'est vrai que sinon, ouais, c'est ouf.
Et après, Sinner, Medvedev, et là...
Et là, ça bloque.
Ça coince. Oui. Et ben moi, je vais dire Sinner, moi.
Sinner vainqueur.
Sinner vainqueur. Contre Alcaraz ou Medvedev. Je t'en rejoins un petit peu. Medvedev peut être, à mon avis, capable d'un grand coup d'éclat.
Mais tu mets Sinner vainqueur.
Mais je mets Sinner vainqueur.
Ouais, moi aussi, je mets Sinner vainqueur quand même.
Il attendait qu'il y en ait qui le dise.
Non, moi je mets Alcaraz vainqueur.
Alcaraz vainqueur. Très bien, très
face
bien.
Face à qui?
Ah, face à qui? Bon, Sinner, hein, franchement.
Ok, ok.
La question est plutôt sur la demi du haut.
Ouais, ouais, vraiment.
Moi aussi, je vais aller sur Alcaraz. Mm. Je pense que ça va être un Alcaraz-Sinner aussi. Mais ça peut être effectivement un gros duel, ce Alcaraz-Medvedev. Effectivement. Il y a peut-être un truc à aller gratter dans ce match-là.
C'est tout ou rien, en vrai. Ça peut être un flop comme un top.
Ouais, c'est
top
ça.
Ou flop.
Eh bien, nous le verrons. Nous verrons après ces demi-finales qui auront lieu donc demain pour le tableau masculin. Et donc, une condition aussi pour que nos pronos se concrétisent quand même, c'est que les joueurs et les joueuses qu'on a cités, elles soient pleinement concentrées, forts de leur solidité mentale. Et aujourd'hui, pleine balle, pense à vous, joueurs et joueuses du bas de la pyramide tennistique, on vous donne les clés pour un mental fort, imprenable sur balle de break. Pour cela, Simon, notre expert santé, vous livre ses secrets pour garder la tête froide en toutes circonstances.
Au-delà de ta concentration, tout devient facile.
Alors, plus que des conseils que je vais vous donner aujourd'hui, je vais plutôt parler, on va partir, voilà, sur une mise en situation. Car nous sommes beaucoup à jouer de manière excessivement parfaite lors d'un entraînement un lundi soir sur le court de son club que l'on a foulé 100 fois. Là, on envoie le bras, on a de bonnes jambes et le service
comme un petit verre de Genépi en bas de la piste bleue. Et ben, il passe tout seul, On se permet même de dire à ses coéquipiers des paroles qui dépassent nos pensées. Oh, je sens que je peux perfer à 15-3 cette année. Ou je me sens aller sur le cours, j'ai jamais été aussi rapide. Ou encore, le pire de tous, ça y est, j'ai réglé mon revers, maintenant il est sûr. Ensuite, vous rentrez dans votre logis, sûr de vous. Vous regardez quelques vidéos de Patrick Mouratoglou en vous demandant mais pourquoi il a pas voulu de vous dans son académie en 2023. Vous vous sentez tellement bien que dans la semaine, vous donnez à vos amis, votre famille, le lieu et l'horaire de votre prochain match. Cormel Le Royal, 15h30 samedi. La veille du match, en vous endormant, vous pensez à ce que vous ferez avec le cash prize du tournoi. Cash prize qui contient un bon d'achat de 70€ à l'Intersport de Bricqueville et son propre poids en pâté. Le jour J, ça y est, vous êtes prêts. Mais la sérénité que vous dégagiez depuis le début de la semaine commence à partir. Les heures filent et votre estomac se serre. Tiens, quelle étrange sensation. Moi qui me faisais un bonheur de manger mon repas de pré-match à base de 300 grammes de glucides, 100 grammes de protéines, une boisson lipidée à l'iode et un dessert sans lactose avec une petite brique de lait, j'ai d'un coup plus très faim. C'est le stress qui monte, mais c'est normal. Vous arrivez ensuite au clubhouse. Dans votre sac Wilson, il y a 4 raquettes. 2 dont le cordage est cassé, une raquette de plage. Et enfin, votre petite protégée, la Wilson, la même que Federer, signée par lui. Enfin, l'ouvrier qui imite la signature de Federer. Toute votre famille, les amis et quelques collègues sont venus également vous voir jouer. Votre cousin vous prévient. Allez, broie-le, il a pas de dégaine, le mec. Vous tournez la tête pour voir justement celui qui n'a pas de dégaine. Et là, vous le voyez. Fabrice, 40 ans, pas de sac de tennis, des chaussures de running, un maillot du Stade Malherbe de Caen, des mollets énormes de latéral droit, une vieille raquette, Wilson, la même que Federer, mais le Federer à l'époque où il passait le bac en 99. Il n'y a pas à chier, ça peut être que lui, le rameur de fond de cours, zéro technique, ancien footeux, tout dans les jambes. Le gars est venu comme Quasimodo, prêt à faire des cloches pendant 2 heures. Sa femme l'a quitté, alors il n'a plus rien à perdre, il peut rentrer dans 4 heures, personne ne lui fera remarquer. L'échauffement commence et il confirme vos craintes. La balle de Fabrice est molle, sans vie, sans personnalité. Le mal est fait. Votre boule au ventre pèse le poids d'une balle de bowling. Vos coups ne partiront pas. Votre coup droit agonise tandis que le revers n'est pas encore rentré sur le terrain. Il n'y aura qu'à la fin du deuxième set où votre jeu retrouvera un peu de vie. Vous remonterez de 5-0 à 5-1. Mais c'est trop tard. Celui qui a gâché sa carrière de footballeur est venu gâcher votre carrière de tennisman devant toute votre famille. Votre famille vous dira d'ailleurs... Écoute, le score ne reflète pas le match. Mais il permet tout de même de comprendre pourquoi Mouratoglou vous a refusé l'entrée de son académie. Après la défaite dans votre voiture, vous vous permettez même une conférence de presse imaginaire entre vous et un journaliste avec la voix sexuelle assez excitante. Interview qu'on s'écoute tout de suite d'ailleurs.
Défaite assez sévère, 6-1-6-1, une réaction ?
Ouais, clairement vachement déçu parce que je commence super bien le match avec un premier point remporté haut la main et puis après derrière voilà, il gagne le premier jeu. Moi ça me fout complètement ça me fout plus dedans quoi, je suis plus dedans. Premier jeu perdu, tu dis bah c'est la fin, ça c'est perdu.
Un mot sur votre adversaire ?
Non mais clairement ce mec dans la vie je pense que clairement il lit des encyclopédies, il lit des dictionnaires même. Il doit se faire chier comme un rat mort. Il a pas fait une faute quoi, fait des fautes mec, genre sois normal. Donc la stratégie elle a clairement été claire, ça a été de juste envoyer du gros bousin, d'envoyer des énormes cartouches. J'envoie
On a senti que vous avez pas un jeu de jambes qui était là, en tout cas on voyait pas courir sur le court, votre coup droit passait pas, je parle pas du revers. Comment vous expliquez ce manque cruel de technicité alors qu'à l'entraînement vous êtes clairement exceptionnel ?
Non bah clairement le mec il joue à 2 à l'heure, donc le jeu de jambes moi tu vois j'en ai plus rien à faire. Donc je me suis permis de pas bouger les jambes, de juste être comme lui quoi, être mou du genou et de toute façon... de merde, plus la merde.
Conclusion, faites très attention à l'excès de confiance, sachez rester humble et n'oubliez pas que le vrai vainqueur d'un match, c'est celui qui prend le plus de plaisir sur le terrain ou dans les vestiaires.
Quelle conclusion.
Joli.
Merci Simon pour cette magnifique chronique.
Je donnerai des conseils la semaine prochaine.
Ouais, j'allais dire, ils sont où les conseils
oui, Non, ils arrivent la semaine prochaine. C'est une chronique en deux parties.
Voilà, c'est une chronique en plusieurs émissions.
C'est la chronique. D'abord mise en situation,
comment gérer ça. Ça arrive la semaine prochaine.
Voilà. Déjà, le premier conseil du dessert sans lactose avec la brique de lait.
Avec la brique de lait, voilà, vous pouvez l'appliquer chez vous.
Là, celle-là, je l'applique dès demain.
Voilà.
Ouais, c'est magnifique.
À bon entendeur. Et on remercie aussi quand même Paulin qui a magnifiquement donné sa voix pour son...
Et qui m'a inspiré pour cette chronique.
Évidemment.
Si vous voulez rire, allez voir Paulin jouer, c'est assez exceptionnel.
À 15h30 samedi, à Cormel-le-Royal. Évidemment. Richard, je crois que tu voulais placer quelque chose.
Oui, parce que j'ai fait une petite trouvaille.
Une trouvaille.
Sur les réseaux.
Oh.
Voilà, voilà.
Sur les réseaux.
Ça m'arrive. Et quelque chose qui m'a fait beaucoup rire.
Il n'y a plus trop de monde sur MySpace pourtant.
Effectivement, mais ça va revenir. Comme Titi passe. Et voilà, je te propose déjà un petit jingle, Simon, si tu es prêt.
C'est parti.
Parce que ça a été vu sur les réseaux. Vu sur les réseaux.
Le jingle.
Vu sur les réseaux.
De Richard.
Vu sur les réseaux.
Par Richard.
Vu sur les réseaux.
Et Simon.
Alors,
on tient à préciser que ce n'est pas préparé. C'est de l'improvisation totale.
Donc, vu sur les réseaux, j'ai vu une petite interview de Eric et Ramzy. Mais c'est surtout Eric qui nous intéresse. Vous allez voir, parce que Eric Judor, donc de son vrai nom, eh bien, il a failli être en tout cas joueur de tennis professionnel.
Ah oui,
c'est
oui, effectivement.
Voilà,
oui.
Oui. Et du coup, dans une petite interview là pour Legend, je sais pas si vous regardez de temps en temps, c'est assez sympa ce qu'ils font. Et voilà ce qu'il disait d'ailleurs, avec Ramzy à côté, tendez bien l'oreille.
Moi, je vais être tennisman professionnel, ça a complètement
foiré. Mais tu devais être tennisman.
Tu peux l'être. J'ai vu le niveau, tu peux l'être. Il a ri parce que dans sa tête, il se dit peut-être qu'il a raison, il dit vrai, je peux l'être.
Tu voulais vraiment, t'es parti aux États-Unis et tout, j'ai vu, non?
Ouais, ouais.
C'était ton truc de
ouf. Ouais, et j'ai eu ce petit souci-là de talent.
Il m'a manqué un élément.
Juste ça.
J'avais tout.
J'étais à ça. J'avais mis les baskets. J'avais
la raquette. Le billet d'avion. L'hôtel.
La réservation. Du cours.
Des copains.
Des adversaires.
Il me manque un truc.
Le talent.
Voilà, Eric Judor et Ramzy. Moi, ça m'a fait beaucoup marrer.
Il avait le mental, ça. Mais pas le talent.
Ouais, je pense qu'il a le mental. Il a dû écouter la chronique de Simon.
Il a dû se faire un dessert avec une petite brique de lait.
Sans lactose.
Un candy up.
Donc voilà, j'hésiterai pas à vous faire découvrir des petites perles comme celle-ci, ça, si ça vaut le coup, évidemment.
Évidemment.
C'est dommage que du coup, le meilleur moment de l'émission de ce soir, ça soit pas notre émission.
Ça le deviendra peut-être.
Ça le deviendra peut-être.
Ouais, ça le deviendra peut-être.
En tout cas, merci Richard pour cette petite partage.
Avec plaisir.
Passons à l'actualité locale. À présent, la chronique de Simon nous en a déjà un petit peu rapproché. On va parler des joueurs amateurs. On se rapproche de notre fanbase, hein, finalement. Commençons par le CNGT de Saint-Lô, qui se poursuit tranquillement dans les deux tableaux, féminin, masculin. Ce sont les joueurs et les joueuses de fin de troisième série, début de deuxième série, là, qui rentrent dans le tableau. On est entre 15-2 et 15. À peu près, et j'en profite pour faire une dédicace à Théophile Tison. Rappelez-vous qu'on avait reçu
Théo,
mais bien sûr, ton homologue Marine, vainqueur c'est de la finale amateur 3ème série de l'Open de Caen. Il joue dans quelques minutes là, à 19h30 à Saint-Lô.
La pression monte.
Est-ce qu'il a vu son candy-up?
Et voilà, on va lui demander tout de suite. On l'appelle. Non, je l'ai pas. On l'appelle, évidemment. Non, il joue contre un joueur de Mondeville classé 15. Donc voilà, dans quelques minutes à 19h30 à Saint-Lô. Bonne chance à la marmule, Théophile.
Big up. Si vous voulez le supporter, foncez.
Foncez à Saint-Lô, dépêchez-vous.
Vous arriverez pour le deuxième set. Peut-être. Voilà,
ça roule porte d'Angleterre.
Ça roule porte d'Angleterre. Richard en témoigne, donc vous pouvez y aller, c'est sûr.
Les yeux fermés.
Les yeux fermés, évidemment. Enfin quoi, quelqu'un quand même. Faites gaffe quand même à ça.
Non, ouvrez les yeux, c'est important.
Plus au nord, le challenger de Cherbourg bat son plein. On avance là aussi tranquillement dans un tableau dépouillé de ses têtes de série. Sur les 7 au départ, 3 sont au rendez-vous des quarts de finale. Borna Gojo, Jurij Rodionov et Clément Tabur, le bourreau de Kei Nishikori. Pour la revanche de Thionville, puisqu'il s'était déjà joué là-bas il y a quelques jours. Richard, je sais que tu as prêté un œil plus qu'attentif à ce match.
Évidemment.
Verdict donc dimanche. Pour ce beau tournoi, organisé toujours d'une main de maître par toute l'équipe des bénévoles sous la direction d'Anthony Thiebaud, qu'on salue par la même occasion. Mais par contre, ce qu'on ne salue pas le moins du monde, je tenais quand même à en dire un mot, ce sont les menaces qui ont été proférées à l'encontre d'un joueur de ce challenger, Matteo Martino. Après sa victoire au premier tour, il a eu la très mauvaise surprise de découvrir plusieurs messages insultants sur son WhatsApp. Et j'insiste sur ce point car ça veut dire que les individus qui lui ont envoyé ces messages ont trouvé son numéro de téléphone quand même, c'est pas rien. Plusieurs messages totalement inqualifiables qui le menacent, lui mais aussi sa famille, son frère Guillaume, notamment, dont l'adresse a été trouvée par ces imbéciles. Matteo Martino, qui s'est exprimé à ce sujet, reconnaissant que ces messages sont de plus en plus récurrents. Il dit qu'il a immédiatement contacté l'ATP, évidemment en retour silence radio. Rappelons tout de même qu'il y a un an, à la même période, Arthur Bouquier était constamment suivi d'un garde du corps lors du Challenger de Thionville pour le protéger d'un parieur qui l'avait menacé depuis les tribunes. Alors dans le cas de Matteo Martino, parieur trop investi ou idiot de première, peut-être un peu des deux, surtout du deuxième, mais plus que jamais, le cyberharcèlement est un fléau et il est grand temps que les instances s'emparent de ce sujet. Voilà, je voulais le placer quand même parce que c'est quand même dégueulasse, absolument ouais, horrible.
Carrément.
Soutien à Matteo Martino et à ses proches, bien évidemment.
Moi, je trouve ça fou que rien ne soit fait encore.
C'est terrible.
Quoi. Ça fait des années maintenant qu'on en parle de ce fléau-là. Et je comprends pas comment rien n'est fait. Je comprends pas pourquoi. Enfin, j'imagine que dans les tuyaux, ils doivent quand même un petit peu y penser à l'ATP et ailleurs. Mais je trouve ça fou, quoi.
Ça traîne.
Ça fou qu'on puisse pas exercer son métier de manière sereine. Déjà que c'est pas un métier facile. Quand tu te retrouves tennisman pro à la 200e, 300e place. Moi, je trouve ça dingue, quoi. Je trouve ça dingue.
Ouais, voilà. C'est vraiment. Voilà, on aurait aimé éviter ce genre de petite parenthèse, mais voilà, il fallait quand même le placer. On réitère notre soutien à Matteo Martino et à ses proches, bien évidemment. La virgule made in Emile.
C'est superbe.
Il fait toujours son effet.
Ah oui.
Et donc, on va finir cette émission avec une note un petit peu plus positive, quand même, puisqu'on va jouer tous ensemble.
Yes,
c'est l'heure du quiz.
Qui aura la question?
Non, la réponse.
La réponse 2.
J'ai la question.
Mais j'ai pas.
La question?
Non, mais c'est eux, ils ont la réponse. Enfin, non, ils ont la question et nous, on a. C'est, ça aurait été plus simple qu'on dise quiz.
Ouais, le quiz.
Quiz.
Le quiz préparé cette fois par Richard.
Eh oui, un petit quiz. Voilà, je suis parti sur un thème qui va peut-être vous surprendre un petit peu.
Oh, surprendre-vous.
C'est du tennis, hein?
C'est du tennis.
Ah oui.
Ok.
Attention, un quiz sur Indian Wells.
Ah bah dis donc,
wow.
Ça me surprend un peu.
Je suis un peu surpris.
J'ai osé.
Tu as osé.
Bravo. J'ai osé le faire. Exactement. J'ai quelques questions autour d'Indian Wells. J'espère que vous êtes prêts.
Voilà,
on va pouvoir
prêt.
Un petit peu réviser notre histoire, le palmarès incroyable de ce tournoi, notamment, etc. Donc n'hésitez pas, bien sûr, chez vous, à jouer. Hein. Vous arrêtez si vous êtes en voiture. Il faut être concentré.
Oui.
Voilà. On arrête tout, on stoppe tout et on écoute bien cette première question. Attention. Je vous parle d'Indian Wells, 5e tournoi du Grand Chelem, c'est sa réputation en tout cas. Première question, dans quelle ville se déroule le tournoi d'Indian Wells?
Est-ce qu'on peut proposer plusieurs réponses?
Oui.
Indiana.
Oui. Indiana? Non.
Dans l'Ohio.
Dans l'Ohio.
À côté du ranch du père Sylvester.
On imagine, oui.
Il m'a volé deux vaches la semaine dernière.
Ça n'est pas donc Indiana, c'est ça?
C'est pas Indiana.
La ville.
C'est à côté de Los Angeles, non?
Nous sommes en Californie.
Ouais.
Voilà.
J'avoue, la ville.
C'est dans le bas, non?
Parce que c'est
je vais même vous dire,
c'est dans le sud.
Ça va peut-être vous aider. Nous sommes dans la vallée de Coachella.
Ah ok, ouais, le festival, évidemment, mais un grand festival.
Alors, Coachella. Quelqu'un a une proposition
alors,
à faire.
La ville,
ce n'est pas Indiana.
Je suis pas San José, mais non, je sais
pas. Pas San José. Indiana, c'est pas si mal, parce qu'on n'est pas très loin, Indiana.
Okay.
Seattle.
Ça commence un peu comme Indiana.
Ça commence un peu.
Un peu.
Mmh. Ouais, ça commence comme Indiana.
In quelque chose.
Atlanta. Oui.
Non, j'ai pas de ville en Californie.
In c'est connu ou...
Bah, vous l'avez déjà entendu, je pense.
Ah bah d'accord.
Mmh.
On en a parlé pendant cette émission.
Ah bon?
De la
oui.
ville?
Oui, de la ville.
Indiane, tout court.
Non. On se rapproche.
Ah. Indy.
André-Loire.
André-Loire.
Eh bien, accrochez-vous bien. Parce que le tournoi d'Indian Wells, il a lieu dans la ville d'Indian Wells.
Ah bah oui, on est con.
Eh oui, messieurs
dames. Eh bah oui, c'est vrai qu'on est débiles.
Voilà, voilà,
tout ça
voilà.
pour ça.
C'est vrai.
Ah bah, excusez-moi. Bah oui, mais... tout ça pour ça. Bah ouais, 5000 habitants à Indian Wells.
Mais d'où le nom?
Incroyable. D'où le nom du tournoi. Mais je savais que vous seriez scotché.
C'est vrai.
Et ben voilà, moi j'aime bien faire mon petit effet comme
le
ça.
Le niveau de départ.
On y est.
Le tournoi d'Indian Wells, c'est où?
Et voilà les gars. Pouf, ça c'est fait.
Bien joué Richard.
Alors celle-là vous l'avez, j'en suis à peu près sûr quand même, parce que vous suivez l'actualité évidemment, qui est le directeur du tournoi d'Indian Wells. Ça fait quelques années. Ça fait quelques années.
Mais j'avoue, je ne l'ai pas. Non, je...
Non, non. Ancien numéro 2 mondial, quand même.
Oui, il y a Donna Kelso et Kirilin Kramer.
Non, il n'est pas marqué là-dessus.
Non, je crois que pas, c'est le.
Non,
c'est
ça, superviseur. C'est le superviseur. Ça.
C'est superviseur.
Non, non, il n'est pas marqué sur notre
petite
feuille.
Ah, t'as dit le directeur, pas le superviseur.
Ouais,
directeur.
Oui. Ancien numéro 2 mondial, fin des années 90,
ah,
début
oui,
2000.
Bon, bah, voilà.
Un illustre joueur allemand qui a arrêté.
Cole Schreiber.
Non, il a arrêté il y a quelques années, mais il a poussé jusqu'à au moins 37-38 ans.
Ah, Yassi ?
Non, Robinazeux, non.
Mais si, c'est Robinazeux.
Non, non, non.
Alors, il est néerlandais. Ouais.
Il est néerlandais, ouais.
Robinazeux.
Non, j'ai pas. Non, mais non.
Marine,
ça commence par quelle lettre ?
Un H. Son prénom ou son.
Son nom de famille.
C'est un H, ouais. Nom de famille.
Le nom de famille.
Oh, non, j'ai pas. Vous le connaissez quand même. Tommy.
As.
Ah bah oui, j'ai dit.
Eh oui, Tommy As.
Je savais même pas qu'il était directeur.
Directeur de tournoi depuis, je pense, 2-3 ans maintenant.
Ah, quand même.
Ouais, bah, Tommy As.
Tommy As, ok.
Magnifique revers à une main.
Oui, oh, oui.
Attention, en quelle année s'est tenue la première édition?
Ah, je crois que je
d'Indian Wells.
À peu près.
Vas-y.
C'est 89 ou 90. C'est quelque chose comme ça.
T'es pas loin. Pas loin.
C'est dans ces années-là.
87.
Et qui l'a remporté?
Ah ah.
Bah, c'est la question d'après, c'est ça.
87, ouais. Les femmes. 89, la première édition.
89,
de
ouais. Ah oui,
ça,
oui, voilà. Okay.
C'était fin 80. Ouais.
Voilà. Alors, qui l'a remporté en 87 ouais, c'est une bonne question. Je vais même vous dire que cette personne l'a remporté également en 88.
Oh là là, quel joueur.
Un doublé, un joueur que vous connaissez.
Américain ?
Non, pas américain.
Edberg ?
Non, pas Edberg, mais un joueur également offensif.
Français.
Becker ?
Boris Becker, ah. Exactement.
Boum boum
87, 88, boum en 87 et boum
en 88.
Voilà. Les joueurs américains, parlons-en, parce qu'entre 1991 et 1997, le tournoi n'a été remporté que par des joueurs américains. Ils étaient trois.
Trois vainqueurs sur ces années-là, d'accord.
Lesquels?
Agassi?
Non, il n'y a pas d'Agassi. Agassi a remporté en 2001,
Pete Sampras.
Pete Sampras. Oui, 94 et 95 pour Sampras.
Courir?
Jim Courier, très bien, 91 et 93.
Donc répète les années.
Il en manque un joueur américain qui a donc remporté le tournoi en 92, 96 et 97.
Ah, trois fois quand même.
Ouais, trois fois.
Il y a qui dans ces années-là? C'est ça le truc. Chang, non, c'est un peu trop. Non, Chang.
Michael Chang.
Ah, non.
Michael Chang, tout à fait. Triple vainqueur donc dans les années 90. Ouais, quand même.
Michael
pas mal.
Chang.
Allez, une question. Autre question. Autre question.
Question autre, parce qu'on va pas refaire la même.
Ça, vous en avez peut-être entendu parler. Qui a boycotté le tournoi pendant plus de 10 ans? Le tournoi d'Indian Wells. Il a été boycotté, donc nous sommes après l'année 1987, évidemment.
Ça me parle, mais...
Bah, c'est pas Serena.
Alors.
Il n'y avait pas une histoire de boycott avec elle?
C'est une semi-bonne réponse.
Ah.
Les sœurs Williams.
Les sœurs
ouais,
Williams.
Ah, c'est les deux, d'accord. Okay.
Les sœurs Williams.
Bon, d'accord.
C'est dur.
Bravo Marine, bravo Marine. Les sœurs Williams sont qui ont boycotté le tournoi entre 2002 et 2014.
Oui, c'était une affaire de racisme aussi, un truc comme ça.
Alors,
je crois.
Voilà, en fait, Richard Williams.
C'est toi.
Le popo.
Le popo a été accusé d'avoir un peu truqué la demi-finale 2002 entre Serena et Vénus.
Oui, c'est vrai.
Serena s'était qualifiée pour la finale et donc le public avait conspué Serena en finale alors qu'elle jouait contre Kim Clijsters, la Belge. Et donc, elle avait été totalement encouragée, la Belge, sur ses terres américaines. Et Serena l'avait très mal pris, effectivement. Elle avait accusé le public, elle, d'un public raciste.
Oui, c'était ça. Ouais.
Alors, il faut savoir, c'est Wikipédia qui le dit, qu'à Indian Wells, il y a 96% de blancs. Voilà. Mm-hmm. Donc, en tout cas, c'était parti en polémique,
d'accord,
cette affaire-là. Et donc, c'est d'abord Serena, je crois, qui est revenue en 2014 en disant « J'ai tourné la page.
Okay. »
Et Vénus est revenue l'année d'après à Indian Wells.
Et du coup, cette année, ils ont oublié Vénus.
Ouais, c'est ça.
Nouvelle polémique.
La hache de guerre est retrouvée.
Ouais, pas facile ça. Voilà. Autre question.
Allez.
Qui est le dernier joueur français à avoir remporté le tournoi d'Indian Wells?
Indian Wells.
Julien Escoudé.
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 C'est pas espagnol.
Santoro.
Ça remonte un petit peu.
Quelle année?
Ça remonte un peu. C'était en 91.
Oh. Guy Forget.
Guy Forget.
Ouais. Ah oui.
91, Guy Forget.
Guy Forget, bah, c'était son année.
C'était son année.
Voilà. Et puis, toujours chez les joueurs français, sachez qu'un joueur français a remporté 4 fois le tournoi en double. Double. Et c'est un record à Indian Wells. C'est une question pour Simon, évidemment.
J'ai déjà la réponse. Allez, d'accord.
Alors, de qui s'agit-il?
C'est Edouard Roger Vazelin. Qui d'autre?
Alors non, ce n'est pas ERV.
Mladenovic.
Non plus.
Bah, j'ai pas
Nico Mahut.
C'est pas Nicolas Mahut, non.
C'est plus ancien, peut-être.
C'est un peu plus ancien.
Ouais,
Yannick Noah.
Non, c'est pas Yannick Noah.
Pioline. Non.
Yannick Noah qui a dû gagner en double le tournoi. C'est pas Pioline non plus.
J'ai pas un joueur de double.
On en a parlé.
Il a performé en simple aussi.
Oui.
On en a parlé là dans.
On en a parlé dans cette émission.
Rojan. Non.
Non. Non.
Guy Forget.
Guy Forget. Ah, ouais, aussi, ouais. Ben oui, la bonne réponse de Marine qui
fois
suit
en double.
4 fois en double.
Ah ouais.
Et ouais, il a gagné notamment avec Becker. Il a gagné avec son grand partenaire de l'époque, Jacob Lasek, un Suisse talentueux. Et il a gagné avec Henri Lecomte en 1993.
Ah,
voilà,
oui,
la doublette évidemment légendaire. Et en 93, juste comme ça, hein, dans le tableau de double, on avait Marc Rosset, Michael Stitch, Wayne Ferreira, Patrick Rafter, Pet Corda. Non, je vous dis ça parce qu'en gros, c'est que du top, ouais. Allez, top 10, top 15, quoi. Dans le tableau de double.
Double alors ouais, que...
Ça fait rêver quand même. Oui, j'ai un peu révisé, je ne vous dis pas ça de tête. Allez, une petite dernière question. Allez. Quand même. Combien de places contient le cours central à Indian Wells?
On a une marge d'erreur ou
pas? Assez big.
Oui, c'est moi qui la déciderai.
À 2 places près.
Allez.
Alors, on donne chacun un nombre.
Ouais, t'as voilà, c'est pas mal.
Enfin, une moyenne. Plus proche.
Joli, Simon, j'adore ce genre d'initiative.
Allez. Merci, Richard.
Eh ben, tu sais quoi, Simon commence.
Ouais. Comme ça, on se calme dessus.
17 000.
17 000 pour Simon.
J'ai aucune idée.
Ça me paraît. Besoin de faire le juste prix, là.
Ouais.
Allez, j'ai lancé mon micro. Pam,
pam, 24 000.
24 pour Enzo.
Ouais, moi, j'allais dire 30 000.
30 000, ah oui, quand même.
Mais j'étais toujours, en fait.
Ouais.
J'ai confondu avec le shot d'Ornano.
C'est ce que j'allais dire. Eh bien, c'est Simon qui l'emporte.
Ok.
Et voilà.
Ah ouais.
Et on n'est pas sur un tout pile, mais presque. C'est... Un peu plus de 16 000 places.
Ok.
Le cours central.
Ah oui, mais moi j'ai compté les bancs des joueurs.
Ouais,
c'est ça, les très longs bancs, ouais, effectivement. Ben non, c'est le deuxième plus grand cours du monde, mm-hmm. après le cours Arthur Ashe de l'US Open, quand même. Chapeau, hein.
Ok.
Indian Wells, des infrastructures éblouissantes. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Indian Wells ce soir.
Magnifique.
Éblouissant comme ce quiz, finalement.
On a appris plein de choses, n'est-ce pas?
On a appris plein de choses. C'est le but, voilà. C'est ce qu'on est dans ces petits quiz, voilà. On se cultive.
Bah oui, parce qu'on est quoi? On est rien. On est des poussières.
Et effectivement.
Ouais, si on se cultive, c'est qu'on est des plantes vertes.
Oh, joli. On les arrose avec plaisir.
Et bon, sur cette belle.
Mais quel est l'engrais?
Et bien, réponse dans 15 jours. Pour trouver. Quel est l'engrais qui nous fait grandir, finalement.
Qui nous cultive.
Merci à vous trois d'être venus ce soir pour cette belle émission. Merci à Emile, également à la technique.
Merci à toi, Enzo, d'avoir présenté d'une main de maître cette émission.
Mais dans 15 jours, ce sera Miami, cette fois.
Miami.
On aura Monte Carlo aussi, en ligne de mire.
Oh là là, on parlera peut-être
cool.
du grand vainqueur 2024 de Monte Carlo.
De Stéphane.
Oui, bien sûr.
Peut-être.
Ouais. En bien ou en mal, hein.
On en parlera. Nous verrons bien. Rendez-vous dans 15 jours.
Il y a le challenger de Phoenix qui arrive.
Mais bien sûr.
Bam.
Bien voilà. sûr. Gros challenger de Phoenix.
Voilà. Tout va bien, Simon?
Je fais une petite sieste.
Simon fatigue.
19h14.
C'est l'heure du dodo. Eh bien, bonne soirée.
À toutes les loulous.
Salut tout le monde.
Ciao.